Voici donc votre rendez-vous avec l'accent des autres. Bienvenue au nom des médias francophones publics. Et voici les grandes lignes de l'actualité de ces derniers jours. C'est avec la radio-télévision suisse, avec RFI, avec France Bleu, Radio-Canada et la RTBF. On va commencer aujourd'hui en Suisse avec la guerre en Ukraine qui était au cœur des discussions du Forum économique mondial de Davos, Pierre-Henri Chauffard.
Les alliés de Kiev ont parlé armement et se sont désolés de notre politique de neutralité qui empêche les membres de l'OTAN de fournir à l'Ukraine le matériel de guerre qu'ils ont acheté à notre pays.
Plusieurs pays livrent bien sûr des armes à l'Ukraine, c'est notamment le cas du Canada, Ottawa qui annonce cette semaine une nouvelle aide militaire importante à l'Ukraine, Benoît Audet.
Oui, à la suite d'une demande spécifique de Kiev, le Canada va envoyer 200 véhicules blindés à l'armée ukrainienne.
En Belgique, les suites de cette affaire de corruption au Parlement européen. Pierre Antonio Panzeri, l'ancien eurodéputé italien qui semble bien être au centre de cette affaire, est devenu un repenti. Sophie Brems, il collabore avec la justice belge.
Oui, il a reconnu avoir participé à ce mécanisme de corruption en lien avec le Qatar et le Maroc. Il a donc signé un accord avec la justice. Alors concrètement, il devra fournir toute une série d'informations en échange d'une peine allégée.
Il va être question de jeunes et de nettement moins jeunes en France. Avec vous, Éric Valmire, vous revenez sur la disparition de la doyenne de l'humanité et d'abord sur une plateforme pour choisir ses études.
Le cycle de la vie, les jeunes tournés vers l'avenir mais inquiets devant la plateforme Parcoursup et une moins jeune qui s'en va. La doyenne de l'humanité vient de mourir, elle était française.
Et elle avait 118 ans. Enfin, nous serons en Afrique pour célébrer le nouvel an de la communauté Amazigh. C'était la semaine dernière, Laurent Corot.
Les Berbères du Sahel et d'Afrique du Nord, ceux qu'on appelle également les Amazigh, viennent de fêter leur nouvel an, notamment au Maroc, un moment festif, mais aussi l'occasion de mettre en avant des revendications culturelles et politiques.
Et voilà donc pour le sommaire de cette semaine. La neige est enfin tombée abondamment en Suisse. Le Forum économique mondial de Davos a donc retrouvé son cadre hivernal cette semaine. Et cette édition était plutôt glaciale pour le pays hôte, pour la Suisse donc, Pierre-Henri.
6 conseillers fédéraux sur 7 ont fait le déplacement de la station Grisonne cette semaine. Ils ont bien sûr pu tisser des liens, raviver des contacts. En revanche, ils ont fait chou blanc auprès de l'Union européenne, ou presque. 11 commissaires sont venus à Davos. Un seul a pris le temps d'un entretien avec un ministre suisse. Quant au président de la Confédération, il n'a eu qu'un bref échange avec la présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, lors de la cérémonie d'ouverture.
Voilà, donc pas d'avancée dans le dossier européen pour la Suisse et quelques soucis aussi, Pierre-Henri, sur l'Ukraine.
Oui, car la guerre a dominé les débats à Davos, particulièrement la question de l'armement de l'Ukraine. Et là, la position de la Suisse suscite au minimum de l'incompréhension. Il faut rappeler que notre pays a mis son veto à l'exportation de matériel de guerre au profit de Kiev par le Danemark, l'Allemagne et l'Espagne, du matériel vendu par la Suisse à ces pays. Pour Berne, la réexportation de ce matériel d'origine suisse viole sa neutralité, une position rigoriste qui agace Jens Stoltenberg, le secrétaire général de l'OTAN.
Mais dans ce cas, il ne s'agit pas de neutralité. Il s'agit de respecter le droit à la légitime défense, de protéger l'état de droit et de défendre la Charte des Nations Unies. Les deux parties ne sont pas à égalité. On parle d'un agresseur et d'une victime d'une agression. Et le droit international est absolument clair là-dessus. Le pays agressé a le droit de se défendre.
Pour l'instant, le gouvernement reste ferme sur sa position, mais des élus s'inquiètent pour l'industrie d'armement helvétique et les emplois qui y sont liés et demandent l'abolition de cette clause de réexportation. L'Allemagne a déjà fait savoir qu'elle se verrait contrainte de s'adresser à d'autres fournisseurs.
Et à propos de la fourniture d'armes à l'Ukraine, le Canada s'engage encore un peu plus aux côtés du pays envahi par la Russie. Cette fois, 200 véhicules blindés vont être fournis à l'armée ukrainienne. Et Benoît, le gouvernement canadien répond cette fois à une demande bien précise.
Oui, le gouvernement de l'Ukraine a demandé au Canada de lui fournir des véhicules blindés. C'est une aide évaluée à 90 millions de dollars qui est fournie par Ottawa. Le premier ministre Justin Trudeau croit que cette nouvelle tranche d'aide démontre bien l'appui du Canada à l'effort de guerre ukrainien.
Je suis très content de pouvoir voir l'annonce ce matin que la ministre Anand a fait pour envoyer des véhicules blindés en Ukraine. Ça va servir. On vient juste d'envoyer encore un système d'antimissiles à l'Ukraine. Par-dessus tous les investissements qu'on a faits par rapport à l'artillerie, par rapport à d'autres mesures.
Voilà, Justin Trudeau, donc le premier ministre canadien. Par ailleurs, Benoît, l'Ukraine tente aussi d'obtenir des chars d'assaut de la part du Canada.
Oui, des chars de type Léopard 2, mais il y a un hic. Ces chars sont fabriqués en Allemagne et Berlin ne permet pas qu'ils soient exportés vers un pays tiers. La ministre canadienne de la Défense, Anita Anand, a refusé de commenter la situation en disant qu'elle était en pourparlers avec ses homologues.
Oui, et l'aide du Canada ne se limite pas au matériel militaire.
Non, depuis le début de la guerre en février dernier, le Canada a annoncé de nombreuses initiatives en appui à l'Ukraine. Cette aide financière, militaire et humanitaire s'élève à plus de 5 milliards de dollars.
Benoît Audet à Montréal pour Radio-Canada.
L'accent des autres avec les médias francophones publics.
Les suites en Belgique de cette affaire de corruption au Parlement européen, avec un homme qui semble bien être au centre de cette affaire, c'est l'ancien eurodéputé Panzeri. Il reconnaît aujourd'hui des actes de corruption en lien avec le Qatar et le Maroc et il est devenu, Sophie, ce qu'on appelle un repenti.
C'est-à-dire qu'il a signé un accord avec le parquet fédéral belge. Cet accord s'appelle un mémorandum. Concrètement, il va devoir tout dire, tout expliquer, donner des noms, des montants, expliquer les mécanismes de corruption en échange d'une peine allégée. Le porte-parole du parquet fédéral belge parle donc d'un accord gagnant-gagnant.
C'est gagnant pour le suspect dont la peine va être allégée, c'est gagnant pour la justice qui pourra avancer sans doute plus vite, plus loin, de manière plus efficace et peut-être avec des éléments dont elle n'aurait pas pu disposer sans passer par cette possibilité.
Voilà le porte-parole donc du parquet fédéral en Belgique, un mécanisme prévu par la loi belge donc, Sophie, une méthode appelée pentiti repenti en italien.
Oui, c'est une méthode utilisée au départ en Italie pour briser la mafia. En Belgique, c'est la deuxième fois seulement qu'un accord de ce type est signé. La loi sur les repentis existe depuis 2018. Elle est controversée parce que certains estiment que ça va un petit peu trop loin. Mais pour le ministre belge de la Justice, dans certains cas, c'est très utile.
Le plus important, c'est qu'on peut dévoiler toute la vérité et qu'au lieu d'avoir une personne avec une condamnation éventuelle, de l'élargir vers d'autres personnes. Et c'est de ce qu'on a besoin, puisqu'ici, on parle quand même du cœur de la démocratie européenne, du Parlement européen. Et c'est la justice belge qui a eu l'audace de commencer cette affaire.
Concrètement, et s'il collabore pleinement avec la justice, Pierre Antonio Panzeri devrait être condamné à un an de prison ferme. Une amende est aussi prévue, ainsi que la confiscation de tout ce qu'il a pu acquérir grâce à cette affaire. Mais s'il ne collabore pas assez, le contrat sera annulé.
On va parler enseignement en France cette fois, parce que depuis mercredi, les lycéens peuvent formuler leur choix d'orientation après le bac sur une plateforme dédiée. Elle s'appelle Parcoursup, une plateforme qui soulève souvent des polémiques sur le plan de l'équité. Mais pour les élèves de terminale, pas le choix, il faut s'y soumettre, Eric.
Et pour les 600 000 lycéens concernés, l'échéance est une dose de stress, quel que soit son projet d'études. À Quimper, Louison Leroy de France Bleu Break Diesel l'a constaté aux abords des lycées.
Moi, j'aimerais être agent immobilier.
Moi, ce serait ingénieur en aérospatial.
Moi, ce serait pour faire de la communication.
Moi, ce serait dans le commerce.
Autant de vœux d'orientation qui seront inscrits sur Parcoursup à partir d'aujourd'hui.
Par exemple, moi, je vais faire BUT Tech de cours en alternance.
Donc toi, tu sais ce que tu veux faire, il n'y a pas de stress.
Bah si, quand même, pour être pris.
Un saut dans l'inconnu qui inquiète ses élèves quimpérois.
Un peu stressé de pas, par exemple, être accepté.
On n'est pas toujours sûr d'être pris, vu qu'il y a un peu aussi une part d'aléatoire.
Cette année, une nouveauté ajoute du stress. Les notes des épreuves de spécialité qui se tiennent en mars comptent dans le dossier. Alors, pas le droit à l'erreur.
Nos spécialités sont au coefficient 16. Tout se joue sur une seule journée, sur deux spécialités du coup. Et donc on a juste à se foirer une seule fois et tout notre dossier peut être foutu.
Faut-il stresser ?
Non, on ne joue pas sa vie.
Béatrice Jiquel est la directrice des études du lycée Le Liquès à Quimper.
Les élèves ne ratent rarement. Souvent, ils ont de meilleures notes aux écrits du bac dans l'année. Donc personnellement, en tant qu'enseignante, ça ne me fait pas peur.
Et les lycéens ont jusqu'au 9 mars pour inscrire leurs vœux. Les années lycées de Lucie Randon ont côtoyé la Grande Guerre. Née en 1904, elle avait 25 ans en 1939. Devenue sœur André, en entrant dans les ordres après la Seconde Guerre mondiale, elle est devenue doyenne de l'humanité en avril dernier. C'est là, à Toulon, que Christelle Marquès de France Bleu Provence l'avait rencontrée.
Que le bon Dieu fasse que les gens s'entraident et s'aiment au lieu de se haïr. Vous savez, il y a beaucoup de choses qu'on ne partage pas, hein. L'amitié, la gentillesse, ça coûte cher.
Sœur André, doyenne de l'humanité, vient de mourir. Elle avait 118 ans.
Un âge plutôt honorable. Enfin, nous allons refermer l'accent des autres avec RFI, qui s'intéresse cette semaine à la communauté amazigh, répartie dans plusieurs pays du Sahel, mais surtout en Afrique du Nord. Une communauté qui a fêté son nouvel an tout récemment. C'était entre le 12 et le 14 janvier. Et c'était précisément le 13 pour les 8 millions de Berbères au Maroc. L'occasion de mettre en avant les revendications culturelles et politiques. Exemple à Tiznit, c'est une ville du sud marocain, de la région du Sousse-Massa. Les célébrations y sont habituellement privées ou associatives, mais cette année, et pour la première fois, toute la ville a célébré l'événement pendant 3 jours et Nadia Ben Mahfoud y était.
Les petites rues de la médina de Tiznit sont bondées. Des milliers de personnes d'ici et d'ailleurs déambulent dans les rues de la ville à la rencontre des musiciens, des danseurs et des artisans venus exposer des produits du terroir amazigh. Khadija tient un stand où elle présente la production de sa coopérative.
Je suis ici pour mettre en avant nos produits de la menthe, de la lavande et toutes sortes d'herbes séchées, mais aussi différentes semoules de couscous que nous faisons nous-mêmes ou encore de l'argan, cosmétique ou alimentaire. Ce nouvel an, c'est l'occasion de faire connaître notre savoir-faire.
Ce patrimoine, ils sont nombreux à avoir fait le déplacement pour le découvrir. Fatima a fait la route depuis Meknès.
Je suis heureuse de voir ce patrimoine. En tant que Marocaine, ça me rend fière. Si on ne sait pas d'où l'on vient, on n'est rien. Dernièrement, on voit de plus en plus d'initiatives comme celle-ci. Ça prouve qu'on est conscient de l'importance de notre histoire.
Pour la première fois cette année, Yaneir, le nouvel an amazigh, a été organisé par la commune de Tiznit sur 3 jours. Mais pour les membres de la communauté, beaucoup reste à faire. Le musée du patrimoine a été alimenté uniquement par la collection privée de Haroulid, artiste et collectionneur d'œuvres amazigh de la région.
Normalement, c'est l'État qui doit protéger notre patrimoine. On a encore du progrès à faire. Au vu de la situation, j'ai rassemblé toutes ces œuvres, toutes ces richesses du patrimoine amazigh pour les préserver et les rendre accessibles au plus grand nombre.
Ces 3 jours ont en tout cas montré l'intérêt du public pour la culture amazigh. Beaucoup espèrent que cette initiative sera renouvelée.
Un reportage de Nadia Ben Mahfoud de RFI pour refermer cet accent des autres. Merci à vous pour votre fidélité. Les médias francophones publics reviennent bien sûr avec un nouvel accent des autres la semaine prochaine à la même heure.